Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actualité du jeu vidéo sur les consoles, le PC, même le mobile de temps en temps quand il y a des trucs intéressants. Je suis Patrick Béja, de retour de vacances avec J.K. Loret qui lui n'a pas vraiment eu de vraies vacances puisqu'il est un travailleur acharné et qui travaille tout l'été.
La passion comme on dit dans le jeu vidéo, tu sais. Ça va, écoute, bonjour Patrick, déjà j'ai l'impression que ça fait une éternité que je suis pas venu parce que j'ai dû rater un numéro a priori, donc
Mais attends, regardons qu'est-ce qui s'est passé. Non, parce que j'en ai raté un et puis un autre avant. Et puis il y avait l'E3, donc c'était un petit peu décalé. Ouais. C'est vrai, ça fait longtemps. Et donc, l'été, les vacances. En plus, bon, il n'y a pas énormément de news, soyons honnêtes. On peut toujours créer des épisodes si on veut, hein, mais il n'y avait pas eu suffisamment pour faire d'épisodes intéressants non plus. Et puis bon, on était un petit peu en vacances.
On peut parler d'autres choses, hein. On peut faire un podcast sur le tricot, sur le cinéma.
Le rendez-vous tricot, exactement. En même temps, cinéma, il y aurait de quoi faire, hein. Il y a eu des films intéressants.
Il y a beaucoup plus. Bon, bah, si on commence à parler cinéma, on n'est pas dans.
J'ai beaucoup aimé Wonder Woman.
Je l'ai pas vu, moi. Par contre, j'ai adoré Baby Driver.
Ah, Baby Driver, voilà, très intéressant, ouais.
Super film.
Ouais, effectivement. Je sais pas si j'ai adoré ou si c'était juste intéressant et intrigant. J'ai trouvé que la première partie était plus intéressante que la deuxième, mais quand même, c'était.
C'est presque l'inverse, en fait. J'aime beaucoup la façon dont le film dévie vers un truc assez sombre. Je trouve ça cool. Enfin, voilà. Ouais, ouais. Edgar Wright, de toute façon, c'est Shaun of the Dead, c'est Hot Fuzz, tous ces films-là.
C'est vrai. Bah là, c'est un petit peu plus. On a l'impression que c'est un petit peu plus travaillé, un petit peu plus un projet.
C'est beaucoup moins comique que ces films précédents avec Simon Pegg notamment. Mais c'est super. Voilà.
Bon, bah écoute, comme quoi, tu vois, on a réussi. Bon, mais parlons un petit peu de jeux vidéo. On va vous parler de PlayerUnknown's Battleground que les Américains abrègent. il faut se relancer, hein, tu sais, le temps que la machine redémarre, tout ça. Abrège en PUBG, il y a la bêta de Destiny 2, il y a le lancement de Splatoon 2, et le succès de la Switch qui continue, etc. On a plein d'autres petites news également. Mais commençons alors avec PlayerUnknown's Battlegrounds, que j'ai enfin pris le temps d'essayer. Je disais depuis un moment qu'il faudrait peut-être que je m'y mette parce que le succès de ce jeu est absolument insolent et il est confirmé par les chiffres puisque il a franchi la barre des 6 millions de ventes. Rappelons que c'est un jeu qui est encore en early access. Il est vendu à 30€, donc c'est un prix quand même un petit peu moins élevé que pour un jeu AAA classique. Ouais. Mais le succès est vraiment insolent, comme je disais, même comparé à n'importe quel type de jeu. On a vu qu'il avait cette nuit, je crois, atteint la plus haute concurrence de joueurs, donc le plus grand nombre de joueurs en même temps simultané sur Steam, excepté pour les jeux Valve. Il était troisième après Dota et CSGO.
C'est quand même un jeu qui a généré 100 millions de dollars de recettes, je crois, depuis son lancement. Je pense que les développeurs, ils sont plutôt ravis. Et effectivement, alors je sais pas si les stats ont été augmentées depuis, mais moi j'avais noté il y a une semaine, il pouvait atteindre les 400 000 joueurs en simultané.
Je sais pas combien il est maintenant, mais c'était un petit peu plus que ça. Je crois qu'il a atteint 400, je sais plus, mais un petit peu au-dessus de 400 000. Mmh. Et c'est fou, quoi, parce que c'est effectivement un jeu dont on a commencé à parler il y a 3 mois peut-être, où on disait c'est un gros succès quand même, c'est bizarre, il sort de nulle part, machin, même si je crois qu'on en parlait un petit peu dans...
Bah, à la base, c'était un mode pour Arma 1 et 2, tu sais, l'espèce de simulateur ultra pointu militaire, et c'est un peu dérivé de toute la scène de tous ces jeux à la DZ, tu sais, ou H1Z1, ce genre de truc, et je crois que le créateur du donc PlayerUnknown, le créateur du jeu, est un modeur pour DZ et pour Arma à la base.
Bah c'est ça en fait que les gens oublient un petit peu. Je sais plus si on en parlait dans l'épisode précédent, mais en fait c'est pas un jeu qui sort vraiment de nulle part. C'est que lui c'est la troisième fois qu'il fait ce jeu. Avant c'était des mods pour Arma et pour un autre. Je sais pas si c'était.
Ça s'appelait Battle Royale. Arma, Arma 2, Arma 3 a priori. Il y avait des mods pour Arma 2 et Arma 3.
Et donc c'est la troisième fois qu'il fait ce jeu, donc il a quand même l'habitude du truc, il sait ce qui marche, ce qui marche pas, et puis il a les ressources de Bluehole, qui est un développeur coréen qui a, d'après, j'ai un ami anglais qui connaît un petit peu le personnage et qui me disait quand il lui parlait les Coréens, il est arrivé dans le bureau et les mecs ils bossent, bah c'est un petit peu comme les Japonais, ils bossent de 8 heures du matin à 10 heures et après ils sortent pour boire tous ensemble et puis ils sont de retour au boulot à 8 heures quoi, ils sortent jusqu'à 3 heures du mat et c'est des fous furieux. Donc c'est pas un mec, c'est pas parce que c'est un modeur qui a fait ça avant tout seul que là c'est juste un jeu d'un petit modeur. C'est un jeu très sérieux par un développeur qui a beaucoup de ressources et en plus il a l'habitude de son truc. Et surtout c'est pas un truc qui sort de nulle part parce que les mods avaient déjà énormément de succès. Mais il n'empêche, sous ce format, c'est effectivement
ce format
une surprise.
Et c'est surtout ce rayonnement médiatique est assez incroyable parce que tout le monde en parle. C'est un jeu qui est extrêmement suivi sur Twitch aussi. Je crois que aujourd'hui c'est un des plus, il doit être dans le top 3 des jeux les plus regardés sur Twitch. Tu peux avoir plus de 150 000 spectateurs par jour. Enfin, c'est monstrueux. Et aujourd'hui, tous les streamers s'y mettent, quoi.
Et c'est la bonne formule, quoi. Et on dit c'est un jeu qui médiatiquement fait énormément de bruit. Bah là, tu vois, il est premier sur Twitch. 73 000 devant League of Legends, Hearthstone, Counter-Strike, Dota, Overwatch, etc., etc. Donc, tiens, il y a Marvel Future Fight. C'est quoi Marvel Future Fight? Je sais
pas. C'est pas le truc en VR, là, de Oculus?
Ah bah non, ça, c'est pas encore sorti. On va en parler tard.
Ah, qui est sorti déjà, oui, d'accord.
Mais bon, bref, PlayerUnknown, effectivement, tu dis c'est un succès médiatique qui était hyper important, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le succès médiatique est vraiment arrivé parce que le succès populaire était là. Il s'est mis à se vendre comme des petits pains, et puis tout le monde le regardait sur Switch, et puis tous les Twitchers en faisaient sur Twitch, et tous les Twitchers y jouaient, et du coup, la presse s'est mise à en parler. C'est vraiment pas un phénomène qui a été drivé par le marketing, c'est un phénomène qui est drivé par la base, et qui est remonté sur les instances médiatiques plus traditionnel, quoi.
Donc, ouais, c'est ça. Ça fait partie de ces phénomènes qui naissent comme ça sur le net et le bouche à oreille, la communauté fait tout en fait et c'est là que c'est le plus impressionnant. C'est-à-dire que leur budget marketing, à mon avis, il réduit à peanuts et derrière, ils ont mis 100 millions de recettes, quoi. Enfin, c'est dingue.
C'est ça. Et du coup, alors tu dis 100 millions, il est quand même vendu 30 euros, et ici c'est vendu à 6 millions d'exemplaires. On est bien plus haut que 100 millions, hein, du coup, en recettes.
Ouais, je pense d'être 100 millions. Il y a peut-être un mois. Enfin, moi, c'est à ce moment-là que je m'étais arrêté au niveau des chiffres, mais
c'est marrant parce que
ça a dû augmenter.
Parce qu'en plus, les chiffres de vente sont exponentiels. Il y a 3 semaines, il était à 5 millions, et maintenant il est à 6, et ça continue à augmenter, quoi.
Mais donc, c'est clair que c'est pas prêt de s'arrêter.
Au-delà de ce phénomène et du succès critique, je serais curieux de savoir ce que tu penses du jeu lui-même. Alors pour ceux qui savent pas, je pense que la plupart des gens en ont entendu parler, mais pour ceux qui savent pas, la manière dont le jeu fonctionne, c'est des petites parties de, on va dire, entre 10 minutes et 30, 40 minutes max.
C'est 30 minutes maximum, ouais.
C'est ça. Où on a 100 joueurs qui sont lancés sur une île qui est pas déserte, mais abandonnée, où il y a des bâtiments, qui est généré de manière presque aléatoire, j'ai l'impression, et dans lesquels il y a des armes qui sont placées ça et là dans les bâtiments et dans la nature. Et les 100 joueurs donc sautent d'un avion en parachute et quand ils arrivent sur l'île qui est quand même assez grande, eh ben ils doivent trouver des armes et survivre et être le dernier. Le but c'est d'être le dernier ou dans les derniers sur l'île et on peut jouer donc en mode solo, en mode duo ou en mode squad où on est plusieurs en équipe. Et donc ça c'est le principe de base et c'est un petit peu l'idée de Battle Royale. Il ne peut en rester qu'un à la fin. Et la mécanique est relativement simple, mais diablement efficace. Donc, toi, tu as joué un petit peu. Moi, j'y ai joué un petit peu aussi. J'ai pas passé non plus des dizaines d'heures dessus. Mais t'en penses quoi? C'est quoi ton
Je sais pas. Enfin, c'est un petit peu compliqué parce que objectivement, je pense que c'est un jeu qui est réussi, comment dire, qui réussit son but. C'est-à-dire que c'est vraiment un jeu basé sur l'exploration au début et la montée en puissance de l'action et de la tension surtout progressive donc que t'as dans le jeu. C'est-à-dire que tu peux très bien trouver ça extrêmement ennuyeux pendant 20 minutes parce que moi par exemple les premières parties que j'ai fait ça m'arrivait des fois pendant un quart d'heure je croisais personne, je passais 15 minutes à traverser une plaine. Voilà, par contre, il y a toujours ce moment où là, tu
vraiment,
commences à...
Excuse-moi, je t'interromps juste pour dire, oui. Pour ceux qui l'ont pas essayé, 5 minutes à traverser une plaine, c'est vraiment 5 minutes à courir non-stop dans la même direction parce que la zone de jeu se réduit petit à petit.
La map est très très grande, ouais.
La map est immense et donc tu cours sans interruption pendant 5 minutes dans la même direction et l'environnement, voilà. Tout ça, mais il y a rien qui se passe. Donc vraiment, 5 minutes à courir sans qu'il se passe rien dans un jeu, c'est un peu long, quoi.
Et puis après arrive ce moment effectivement où je me souviens les premières parties, tu commences à explorer une maison et d'un coup tu vois un joueur passer à la fenêtre derrière la maison, tu vois. Et là c'est tout bête mais ça fonctionne extrêmement bien, c'est-à-dire que on est dans des sensations qui peuvent rappeler même quasiment des survival horror. Tu sais qu'il y a un mec qui est dans le coin, donc là tu commences un peu à prendre ton temps à voir où est le gars, etc. Et ça c'est cool, ça c'est assez cool, ça marche plutôt bien. Mais par contre faut accepter effectivement le contrat d'une mise en place qui peut être très longue. Ou au contraire, tu peux atterrir et te prendre une balle au bout de 20 secondes de jeu parce que il y a quelqu'un qui a atterri en même temps que toi à côté ou qui a gratté un flingue juste avant toi. Et voilà, donc une partie peut très bien durer 1 minute 30, donc c'est extrêmement frustrant parce que il n'y a pas de respawn automatique dans le jeu. Une fois que t'es mort, ta partie est terminée, donc tu dois relancer une partie ou rejoindre une autre partie.
Mais l'avantage, c'est
tout l'intérêt du truc.
L'avantage, c'est que t'as pas à attendre que la partie se termine. C'est juste, ok, tu pars et tu retournes dans une autre partie qui est en train de se lancer.
Mais bon, il faut refaire toute la phase, évidemment, de sélection du personnage, de saut en parachute qui peut être assez longue parce que ça dépend où est-ce que tu veux atterrir. Des fois, tu peux passer un bon moment avant de décider où atterrir. Et ça, je pense que les joueurs qui maîtrisent bien le jeu ont vraiment leur spot favori, en sachant qu'ils savent très bien que là, il y a tel ou tel coup. Ils peuvent se planquer plus facilement. Je pense que c'est un jeu qui peut paraître tout bête au début, hein, extrêmement même un peu basique. Hein, c'est juste un gigantesque deathmatch sur une très grande carte, mais il y a plus de profondeur que ce qui n'y paraît, avec un rythme particulier parce qu'on est quand même dans une sorte de physique assez réaliste. C'est vraiment des combats. Voilà, c'est des modes. On disait tout à l'heure, ça vient de Arma, donc des simulations de militaires assez réalistes. Donc c'est moins réaliste qu'Arma, mais effectivement, tu meurs très très vite et tu tues évidemment
un personnage très mort,
vite.
Donc, voilà, c'est ça. C'est pas non plus un truc où tu te caches derrière un baril pour récupérer ta vie.
Pas du tout.
Effectivement, ouais. J'ai un petit peu la même sensation que toi. C'est un jeu qui est certainement intéressant. Mais je crois que si on n'était pas déjà un petit peu attiré au moins par l'idée d'un jeu de survie à la DayZ, à la je sais plus comment ça s'appelait, Ark, ce genre de truc,
voilà. Ça, ouais.
On sera pas forcément intéressé par celui-ci. En même temps, c'est différent parce que dans ces jeux-là, on avait cette accumulation de le survival se passait sur des heures et des heures et des heures et tu pouvais avoir accumulé et construit ton personnage et accumulé tes possessions et tout ça pendant 10 heures et puis quelqu'un venait et tu savais pas trop s'il était agressif ou pas, finalement il te tuait et puis c'était fini, quoi. Il fallait que tu recommences à zéro et c'est de là que venait la tension. Là c'est compressé un petit peu comme c'est pas tout à fait comparable mais c'est un peu comme les MOBA ont compressé le fun d'une partie de MMO ou de RTS longue dans un jeu d'une trentaine de minutes et il y a cette montée en puissance. Ben là, c'est un petit peu la même chose. C'est l'impression de ces jeux de survie qui étaient très très longs, qui est compressé dans une partie de 30 minutes et qui est beaucoup plus digeste. Mais je crois que si on n'aimait pas vraiment l'idée des jeux de survie autres, ça va pas forcément nous plaire plus dans cette version. Enfin, ça va plaire plus, mais si vous détestiez l'idée du truc à la base, c'est certain que ça soit forcément pour vous. Et c'est un petit peu ce qui m'est arrivé à moi. C'est-à-dire que j'ai eu ces expériences sympas où t'es planqué dans une maison et puis tu vois quelqu'un passer, tu vois du coin de l'œil, tu vois un truc qui bouge dans ton dans ton champ de vision et puis tu te dis ah merde, il y a quelqu'un qui est là et tu te planques, tu passes sur le mur, t'essayes d'ouvrir la porte pour sans qu'ils t'entendent en plus parce que le son joue un rôle hyper important dans le dans les mécaniques de jeu, tu peux entendre les voix ou les bruits des gens qui sont à côté de toi. Et puis il y a quelqu'un qui arrive dans un hangar où toi tu t'es planqué, et tu sais qu'il va arriver, donc tu te planques un peu et tu arrives par derrière et tu lui tires deux fois dessus au fusil à pompe et il est mort pendant qu'il est en train, enfin il est immobile, tu vois, donc tu vois bien qu'il est en train d'essayer de chercher des trucs dans son inventaire et t'arrives par derrière. Moi il m'est arrivé de d'atterrir en fait à juste derrière quelqu'un qui était en parachute et puis il est atterri, il est rentré dans une maison, mais j'étais vraiment à 10 secondes de lui, quoi. Sauf que lui, il me voyait pas vraiment. J'ai l'impression qu'il m'a pas entendu et je suis arrivé derrière lui et je l'ai tué à coup de poing, quoi. Donc, parce que c'était le tout début, t'avais pas d'armes.
Ouais, au début, t'as rien. Faut pas oublier qu'au début, t'es vraiment à poil. T'as pas de protection, t'as pas d'armes.
C'est ça.
Ça joue beaucoup sur le côté. Est-ce que je fonce dans le tas, entre guillemets, pour gagner du temps et tuer les mecs et quitte avec mon couteau? Et, ou alors est-ce que je prends mon temps pour looter du bon matériel avec le risque de me faire tuer avant, quoi.
Ouais. Et puis tu peux ensuite te faire sniper de la colline, j'allais dire la moitié de la map, mais non parce que c'est immense, mais de la colline d'en face.
Non mais oui, bien sûr.
Et toi tu vois pas grand-chose.
C'est un jeu de campeur aussi, hein.
C'est ça. Et et puis tu peux tout à fait survivre jusqu'à presque la fin du jeu juste en te planquant, quoi. Bon, au bout d'un moment la zone de jeu se réduit, donc il faut bien que tu... C'est bien fait ça, il t'amène à te confronter aux autres joueurs quoi qu'il arrive, tu peux pas camper jusqu'à la fin des temps. Mais tu peux arriver dans les 40-30 derniers sans même voir un ennemi de toute la partie.
Bah moi une des premières parties que j'ai fait, vraiment je suis arrivé quasiment 50e alors que j'ai croisé personne, quoi.
Ouais, pareil,
il y avait déjà 50 mecs morts alors que j'avais vu personne et bon je me suis fait tuer, enfin voilà, c'était pas très palpitant. Mais malgré tout je pense que c'est comme tu disais tout à l'heure, ça peut vraiment séduire un public public nouveau qui effectivement s'ennuie vraiment devant des DZ etc, parce que
mais
vraiment il y a ce côté
aime l'idée du
ouais,
Battle
voilà,
Royale
malgré tout, et parce qu'ils savent que de toute façon ta partie durera pas plus de 30 minutes au maximum, ce qui est un temps relativement court. Alors là tu te fais une partie le midi, etc. Évidemment, voilà. Mais en même temps, t'as quand même cette liberté de mouvement, cette très grande carte, et c'est ce rythme. En fait, je trouve que voilà, les parties sont plutôt bien rythmées malgré tout. Après, ça reste quand même. Comment dire, une éloge à la marche au début, en tout cas à la randonnée, sans qu'il se passe grand chose. Donc effectivement, ouais. si vous êtes amateur de Quake et même de CS, vous allez vite vous embêter, quoi.
C'est ça, ouais. L'action est un petit peu différente.
Ouais,
au final, je crois que c'est pas vraiment un jeu pour moi. J'en vois les qualités, mais c'était marrant parce que il est tellement populaire que je me sens presque coupable de ne pas Enfin, c'est pas que je l'aime pas, c'est que bon, c'est sympa, mais voilà, c'est plus pour moi. Mais c'est un petit peu le genre de phénomène où tu te dis, waouh, tout le monde adore, machin, est-ce que je vais être ébloui moi aussi? Et puis quand t'es pas ébloui, c'est genre, ah bon, ok, bon, bah.
Bah oui, oui.
D'accord.
Ah, tu sais, ça reste quand même un style de jeu très particulier. Enfin, moi, je me suis toujours ennuyé, comme c'est pas permis de voir un MOBA, par exemple. C'est pas pour moi. Mais bon, après, je pense que c'est important de les essayer, ne serait-ce que pour ta culture vidéoludique et disant, voilà, je connais ce genre de jeu, j'ai déjà essayé, c'est pas pour moi, voilà, c'est tout.
Je me demande s'il faut pas une petite dose de sadisme quand même pour aimer ce jeu. Là, c'est le commentaire un petit peu controversé que je peux faire, mais il y a un petit peu l'ambiance de tu vois, je me planque, je vais tous les niquer, ou je sais pas, il y a un petit peu l'ambiance de c'est pas malsain forcément, mais c'est un petit peu ce jeu où c'est genre je sais pas. Et d'ailleurs dans les commentaires des gens qui quand t'es dans l'avion, en fait tu peux entendre tout le monde qui parle, puisque tout le monde est entre guillemets physiquement et virtuellement à côté l'un de l'autre. C'était quand même les commentaires, c'était un petit peu un minimum puéril, et puis
ouais,
un petit
bah
peu
ça genre, de toute façon c'est à partir du moment où un jeu
les gens qui font des voix
ça,
débiles, les gens sont là
communauté
vagina 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 ouais, vagina voilà, machin, t'es là bon.
Oui, là, je pense que c'est pas la peine de discuter longuement avec. Enfin voilà. Après, en plus, faut pas être médisant sur la communauté, mais il y a évidemment de tout. Mais à partir du moment, c'est comme dans les MOBA, à partir du moment où un jeu draine des millions de joueurs,
il y a de la toxicité partout, c'est sûr.
Il y a un peu de tout, voilà, c'est normal.
Mais je sais pas, la mécanique du jeu, j'ai l'impression,
je comprends ce que tu veux dire. C'est un jeu de fourbe, hein, de toute façon, faut aimer ce genre de
truc.
C'est aussi un jeu où il faut être un peu masochiste aussi, parce que il faut quand même accepter le contrat de rien faire pendant un quart d'heure et de te faire tuer et de repartir et de recommencer une partie, quoi. Mmh. Tu vois, c'est à la fois, c'est un jeu SM. Voilà. on peut dire ça.
Faut aimer les deux. Ouais. En exagérant un petit peu les caractéristiques, effectivement, on peut peut-être dire ça. Quand même, bon jeu, gros succès. Je comprends tout à fait pourquoi il a ce succès. C'est intéressant, facile, une bonne formule, bien ficelée, même en version early access, il est quand même tout à fait jouable et presque. Il pourrait sortir comme ça, mais il continue à l'améliorer. Bon, de fait, il est un petit peu sorti, mais.
Et il sort sur Xbox One d'ici la fin de l'année, je crois aussi.
Voilà. Et je pense qu'il va vraiment trouver son public sur Xbox. Enfin, sur console, il peut fonctionner, quoi.
Ouais, bah, tu sais que les survival marchent très bien sur console, hein. Je crois que c'est, Ark, sur PS4, je crois, il marche extrêmement bien. Enfin, moi, je suis comme toi, hein. C'est pas vraiment ma cam, toute cette scène de jeu, les survival, les trucs en monde ouvert, etc. Mais je suis assez fasciné par le phénomène que ça représente, quoi. Et moi, j'ai des amis qui peuvent passer des centaines d'heures à jouer à ça, quoi.
Et donc, c'est pas A Game of Thrones, c'est A Game of Worm.
Voilà. C'est ça.
C'est le titre de l'épisode.
Voilà le titre de l'épisode.
Passons à Destiny 2 et à sa bêta qui a eu lieu il y a quelques semaines à peine. J'en parle parce que, évidemment, moi, vous savez que j'étais un immense fan. Je suis un immense fan de Destiny 1. Non, pas du tout.
Ah bon? Je sais pas.
La bêta, je l'attendais avec un peu d'impatience et comment dire. J'avoue que j'ai pas été déçu, mais j'ai quand même été un petit peu déçu. C'est-à-dire que ça confirme clairement que Destiny 2, c'est Destiny 1.5, ce qui est pas une mauvaise chose, hein. La plupart des suites, si on y pense, c'est généralement le même jeu avec des améliorations. Mais surtout, L'aspect single player, l'aspect solo, la campagne a l'air effectivement bien mieux ficelé avec on a vraiment l'impression de comprendre ce qui se passe et puis c'est il y a un moment hyper sympa dans la première mission où on a une mission où on est tout seul sur la map et puis à un moment on sort d'une zone de cette map. Et puis tout à coup, il y a d'autres joueurs qui sont là et on doit repousser un assaut des ennemis qui sont en train d'essayer de prendre une partie de la zone qui est hyper familière pour les joueurs du premier en plus. Mais c'est genre ce mélange complètement seamless entre la partie solo et la partie solo coop qui donnait un sentiment assez intéressant. Et s'ils réussissent à intégrer ça dans l'ensemble de la campagne, ça peut être vraiment sympa, en plus du fait que, contrairement à Destiny 1, la campagne est une vraie campagne. Il y a une histoire, il y a des personnages, il y a des trucs qui se passent, c'est pas juste le ghost voicé par Peter Dinklage hyper mal joué, qui te raconte des trucs auxquels tu comprends rien. Donc ça, c'est plutôt positif. Là, Strike, le donjon, est sympa, est bien foutu. Et voilà, la partie multijoueur est toujours bien parce qu'elle était bien dans le Destiny 1. Mais la raison pour laquelle j'étais entre guillemets déçu, c'est que c'est Destiny 1, ok, ça on a compris. Enfin, Destiny 1 amélioré, mais c'est vraiment l'intérêt de Destiny vient de la rejouabilité et du fait que au-delà de la campagne, il y a une progression qui est hyper motivante et une rejouabilité des missions qui est hyper importante. Et là, on a dans cette bêta une coupe horizontale des trois éléments du jeu qui nous montre un petit peu comment ça va marcher, mais ça finalement c'est pas ça qui est important dans Destiny. L'important, c'est comment ça va se jouer si je veux venir comme un MMO, quoi. Si je veux venir tous les jours jouer une heure, deux heures, ou toutes les semaines rejouer un petit peu, est-ce que je vais avoir de quoi me mettre des trucs sous la dent ? Et d'après tous ceux qui y ont joué au-delà de cette petite tranche, effectivement, on a de quoi faire, il y a toujours quelque chose à faire et c'est toujours sympa à jouer entre potes, mais c'est pas ça qu'on voit dans la bêta. La bêta, c'est vraiment un truc où on te montre une toute petite partie du jeu, où ils testent leur infrastructure, mais on voit pas ce qui est important pour le jeu. C'est presque une bêta technique, quoi. Enfin, c'est une bêta technique, en fait. C'est pas comme ça qu'on va pouvoir juger de la qualité du jeu. Donc c'est mon impression sur le truc. J'étais déçu parce que la première bêta, je découvrais Destiny, donc j'y avais joué des heures. J'avais monté tous les personnages au niveau max qu'on pouvait dans la bêta, qui était niveau 8, donc pas grand chose. Et j'avais vraiment apprécié. Là, je connais déjà le jeu et il y a rien de suffisamment différent pour m'intéresser à y jouer plus que le faire une fois. Tu joues deux heures et puis c'est terminé. Donc c'est bien. Parce que ça fonctionne très bien et voilà. Et en même temps, c'est pas bien parce que ça m'a pas provoqué cette excitation de me dire est-ce que je vais pouvoir me replonger dans l'univers de Destiny comme je l'avais fait il y a un an avec ou deux ans avec The Taken King et puis trois ans quand il est sorti. Et je sais pas s'il y a suffisamment là-dedans pour me faire me replonger dedans. Donc.
Moi, j'y ai pas joué, hein. Destiny, c'est pas trop, trop mon truc. Mais après, le fait qu'il sorte sur PC me motive un petit peu plus à essayer. J'avais joué au premier un petit peu quand même.
Tu peux te rapprocher du micro, t'es un petit peu loin.
Excuse-moi. Attends, mon micro a été relevé, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est mieux là, comme ça, j'imagine.
Beaucoup mieux.
Donc, je disais que j'ai pas essayé encore la bêta. Je suis pas un énorme fan de Destiny, mais le fait qu'il soit sur PC, voilà, ça m'attire plus.
Mais t'avais joué au premier ou pas du tout?
Ouais, j'avais joué au premier quand même sur console. Je m'en suis très vite lassé, hein. C'est pas, alors que je trouve les sensations d'un FPS super bonnes, le côté MMO solo, parce que moi j'ai joué beaucoup en solo, m'a pas convaincu plus que ça. Mais sinon, ce que je voulais dire, c'est qu'à la base, je me souviens, au tout début, Activision quand même vendait un peu leur Destiny comme Ubisoft fait aujourd'hui, ce qu'ils appellent Game as a Service, c'est-à-dire un jeu et qui est mis à jour, qui évolue au fil des années. Et finalement, le 2 a été annoncé très vite. Est-ce que tu crois pas que, enfin, moi c'est une question que je te pose justement, toi qui as beaucoup joué, est-ce que c'était pas, ça aurait pas été mieux de continuer à mettre à jour le Destiny original et sortir, parce que là j'ai l'impression que ce 2, il porte, voilà, il s'appelle 2, mais il aurait pu s'appeler Destiny / nouvelle extension, enfin je sais pas, d'après ce que j'en ai lu et les retours que j'ai eu, c'est que le fait que ce soit une vraie suite, ça se sent pas trop, quoi.
Bah, c'est difficile à dire vraiment parce que le pari dans ce genre de jeu game as a service comme une sorte de MMO light,
ouais.
Le pari c'est le game design sur la longueur et ouais. C'est hyper compliqué.
Ouais.
C'est ça que les gens n'apprécient pas vraiment bien dans ce genre de jeu. La difficulté, c'est de te motiver à revenir refaire le même contenu des dizaines de fois. Et c'est ça la réalité du truc. Dans les jeux qui sont des jeux en multi compétitif, c'est pas, entre guillemets, c'est pas dur, c'est-à-dire que tu fais des parties contre quelqu'un, donc c'est toujours un peu différent, donc tu continues et t'essayes de progresser, d'apprendre à mieux jouer, etc. Dans les jeux coop, qui sont au moins en partie coop, c'est difficile parce que tu vas devoir refaire le même contenu, et c'est le pari de tous ces jeux comme les jeux Blizzard, ils sont souvent comme ça, enfin les Diablo,
les
MMO,
ça, en fait,
tous les voilà. Et y en a d'autres, hein. Y a The Division, enfin il y en a plein.
Bah, aujourd'hui, Ubisoft fait ça beaucoup avec Rainbow Six, The Division, même For Honor.
Mais Rainbow Six, c'est du versus, donc For Honor aussi, c'est du versus. Donc
ouais.
C'est vraiment une catégorie à part. Et pour répondre à ta question, oui, c'est clairement un 1.5 comme tout le monde le dit. Mais et la raison pour laquelle ils mettent le 2 devant, je pense qu'il y a deux trucs. C'est que d'une part, ils ont quand même changé un certain nombre de systèmes du jeu parce qu'ils ont appris beaucoup avec le premier. Et donc, il y a des choses qui sont un petit peu différentes qu'ils auraient peut-être pas pu tout à fait faire avec le premier. Mais aussi, évidemment, une énorme partie marketing. Et le fait qu'ils disent 2, ça va amener d'autres personnes qui n'avaient pas apprécié le premier ou n'avaient simplement même pas essayé le premier à essayer le 2 simplement pour voir ce qui se passe, parce qu'il y a un 2, il y a un 2 après le nom, quoi. Il l'aurait pas fait si c'était Destiny, The Wrath of Gaul, voilà, c'était...
Ouais, je comprends. Après, je vous disais ça pour faire un peu l'avocat du diable, parce que moi, du coup, le fait qu'ils en fassent un 2 et qu'ils sortent sur PC, ça m'attire plus, en fait, qu'une énième extension, même si elle était sortie sur PC. Voilà. Enfin, voilà, moi, je trouve que Bungie est très bon pour mettre en scène des bonnes sensations de FPS à la manette, en plus.
Ah bah ça, c'est l'immense qualité du premier.
C'est leur qualité, c'est sûr. Et même en termes de direction artistique et tout, le jeu est plutôt chouette. Après, effectivement, le côté répétitif, alors que je peux adorer, je peux passer des plombes sur un Diablo, tu vois, le hack and slash, il n'y a pas plus répétitif comme genre. Mais ça a bien marché. Alors, typiquement, je sais pas si on peut vraiment comparer les deux, je sais pas si tu as joué, mais moi, je compare aussi ça à des jeux comme Borderlands, où il y a une grosse partie hack and slash, loot, etc. J'ai adoré Borderlands 2, par exemple, alors que des m'évite de tomber des mains, quoi.
Bah, disons que là, on va voir, mais la leçon, entre guillemets, qui ressort de la... Enfin, les conclusions de la bêta, c'est que je peux pas encore me prononcer. Parce que toute cette partie répétition, long tail, la... Comment dire ? Comment on traduit long tail ?
Longue durée, non longue...
Ouais, enfin, la partie sur la durée du jeu, on peut pas du tout la juger. Donc, on verra en septembre à la sortie, quoi.
Ouais, c'est clair.
D'autres petites news un petit peu plus rapides peut-être. Alors on n'y a pas vraiment joué ni toi ni moi, mais Splatoon 2 est sorti sur Switch et le succès est au rendez-vous, surtout au Japon.
Ouais, mais c'est ouf. J'ai vu des photos des bon, c'est classique les files d'attente au Japon pour acheter des jeux, mais là c'était incroyable. Enfin, et puis au Japon apparemment il y a une pénurie de Switch qui est ultra violente. Hein. On se bat vraiment pour en trouver, encore plus qu'en Europe ou en États-Unis, parce qu'il y a peut-être une demande qui est plus forte, je sais pas. Mais c'est même étonnant. Alors je sais pas si c'est peut-être un peu cliché ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément le type de jeu que les Japonais apprécient habituellement, les jeux compétitifs comme ça en TPS.
C'est en ça que Splatoon, le premier du nom, avait créé la surprise, c'est que justement il avait hyper bien marché tout court, mais surtout au Japon. Il y a un vrai attachement à Splatoon au Japon en particulier, et c'est un petit peu pour ça que ils ont tellement parié sur Splatoon 2 en général et au Japon là encore en particulier. Mais il est certain que le truc a fonctionné de manière un petit peu surprenante. Il s'est donc très très bien vendu. Ils ont encore vendu plus de 2 millions de consoles ce trimestre. Ils en sont à presque 5 millions de Switch. Donc, enfin, un succès toujours incroyable. Il prévoit 10 millions de consoles
millions,
sur la première année.
Dans le monde, c'est ça ? Non, au Japon, non. Non, bah non,
dans le monde.
C'est ça, oui.
Mais il prévoit 10 millions sur la première année, sachant, rappelons-le encore une fois, que la Wii U a vendu 13 millions sur l'ensemble de sa vie. Donc voilà, ça donne un petit peu
Là on peut dire que ça y est, on peut dire que le succès est acquis. Après on verra si ça va durer sur la longueur, mais ce qui est intéressant, c'est de voir le carton de évidemment Zelda est le jeu le plus acheté. Il y a 3-4, je suis en train d'en lire ce que j'avais écrit sur les numériques, c'est ça, 3,9 millions, et par contre Mario Kart est juste derrière, quoi. Et le carton de Mario Kart, c'est assez incroyable, parce que déjà le jeu est sorti beaucoup plus récemment et c'est une réédition, hein. Mais il a 3,5 millions d'exemplaires vendus. C'est étonnant et en même temps pas tant que ça, parce que c'est un excellent jeu déjà, et que il y a plein de gens qui n'ont pas acheté la Wii et la Wii U et qui donc du coup ont foncé sur celui-là, quoi.
C'est exactement ça, et je pense que c'est un petit peu ce qu'espèrent Bungie et Activision pour Destiny 2,
ouais,
tu vois.
C'est vrai.
Oui, c'est un petit peu, c'est 1.5, mais il y a pas assez de gens qui ont joué au 1, donc les gens vont tenter avec le 2, tu vois. Et là, c'est un petit peu ça. Tous ceux qui avaient pas acheté de Wii, bah, ils ont acheté une Switch, et donc ils achètent ces jeux qui sont un petit peu les mêmes. Même Splatoon 2, bon, il est très bon, il y a des trucs un peu différents, il y a une partie solo, tout ça. Mais moi, tu vois, je l'avais sur Wii, sur Wii U. Bon, je me suis pas lancé sur Switch, quoi, parce que je sais que c'est un petit peu le même, mais il y a plein de gens qui l'avaient pas, et il y a plein de gens qui l'avaient aussi sur Wii U et qui l'aimaient bien et qui l'ont racheté sur Switch. Mais il y a un truc qui est un petit peu peut-être le premier bad buzz de Nintendo avec la Switch, c'est leur application online qui est sortie et qui est nécessaire pour avoir du voice chat, du chat vocal sur Splatoon. Et alors, c'est ce qu'on disait depuis le début, mais enfin, c'est inepte la manière dont ça fonctionne. On ne peut, alors, pour avoir du voice comme je disais, du chat vocal et le son du jeu en même temps, il faut que tu aies écoute à la fois ton téléphone, donc l'application sur laquelle est lancé, enfin le téléphone avec l'application ouverte, et le son du jeu lui-même, quoi, sur la console. Et comment tu fais pour mélanger les deux et pour envoyer ta voix sur l'un? Il y a ce truc dont on avait parlé là, pas le convertisseur, mais l'adaptateur où tu branches ton casque avec micro et qui va ensuite répartir le son sur la console et sur ton téléphone. En plus, sur l'application, il y avait un problème au début, j'imagine qu'ils l'ont corrigé, mais quand tu quittais l'application, bah ça te déconnectait du chat vocal. Donc super.
Non mais c'est ça, apparemment, même si ton téléphone se met en veille, ça coupe le chat, enfin c'est pensé, mais c'est un non-sens total, quoi. Bon après moi malheureusement ça m'étonne pas, enfin faut dire ce qu'il y a, Nintendo a toujours été nul pour tout ce qui était tout ce qui fonctionnalité online, ça a toujours été, ils ont toujours été à la bourre, quoi. Mais surtout là, non seulement ils sont à la bourre, en plus ils sortent un truc qui est mal pensé. Et moi ce qui me dérange le plus, c'est que, à moins que je dise une bêtise, mais bientôt tous ces services vont être payants chez Nintendo, hein, l'équivalent de 20 euros par an. Alors c'est pas grand chose certes, surtout comparé au PS Plus et au Xbox One Gold. Mais je trouve que devoir payer derrière avec un service de aussi mauvais, ça fait un peu c'est pas terrible, quoi.
C'est sûr. Alors le service inclut aussi les histoires de jeux disponibles pendant un mois, etc. Gratuit pendant un mois. Mais oui, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Et c'est clairement un bad buzz. Et j'ai l'impression en fait qu'ils s'en foutent. J'ai l'impression qu'ils le font parce que tout le monde leur dit mais si, il faut.
Faut le faire.
Et eux, ils s'en foutent, quoi. Ils pensent que c'est pas important pour le succès de leur console et le succès de leur jeu. Et ils le font pour ceux qui veulent vraiment qu'ils aient un moyen alambiqué de le faire quand même. Mais je crois qu'ils s'en foutent.
Sur Splatoon 2, ça avait quand même du sens. Hein, s'il y a bien un jeu compétitif où tu joues en ligne. Parce que eux, c'est vrai que leur truc, c'est le multijoueur canapé, quoi. Nintendo, ça a toujours été ça, leur avant tout ça, quoi. Mais du coup, ils se coupent complètement d'un marché de jeux en ligne qui pourrait et même les éditeurs tiers, pardon, ils auront pas envie de sortir des jeux multijoueurs vaguement compétitifs sur la Switch, quoi. C'est évident, quoi.
Clairement. Non, et puis même, je veux dire, comment tu fais pour écouter le son du truc, pour avoir un casque, tu peux pas brancher ton casque sur la manette. Donc, si tu joues de ton canapé, tu dois brancher sur ton téléphone, ok, et puis tu dois avoir un super long câble pour aller jusqu'à la console. Enfin, moi je pense qu'une prochaine version de la console intégrera les fonctionnalités en ligne dans la console. Je pense.
Ouais.
Mais,
j'espère.
Bon, bref. Donc c'est clairement le premier bad buzz du truc qui est pas super grave, mais c'était marrant parce que même sur Reddit, sur le subreddit de la Nintendo Switch, les gens étaient pas contents. Et c'était la première, enfin vraiment pour que les méga fanboys de Nintendo qui sont sur Reddit soient pas contents, c'est que vraiment là il y a vraiment un problème, quoi, parce que
tu m'étonnes.
Dans le genre fanboy, je crois que j'ai rarement vu pire et j'en ai vu des fanboys, donc. Bon, donc voilà pour la Switch qui continue son succès, là aussi un petit peu insolent. Et puisqu'on parle de services en ligne, il y a une augmentation du prix du PlayStation Now, du PlayStation Plus, qui a eu, évidemment les gens étaient pas contents, c'est normal quand le prix augmente. Et généralement, moi la manière dont quand je fais l'apologie des grandes marques en bon vendu que je suis, je dis que ces augmentations de prix sont généralement dues aux fluctuations des taux de change ou à l'inflation ou machin. Et pour l'inflation en tout cas, je suis allé regarder et depuis le lancement du service en 2010, l'inflation aurait donné une augmentation, enfin les 50 euros auxquels ça a été lancé en 2010, les 50 euros annuels, sont équivalents ajustés pour l'inflation à 53 euros aujourd'hui, et le prix, le nouveau prix est de 60 euros. Donc clairement, c'est pas expliqué par l'inflation.
Non,
c'est une augmentation.
Après prix, peut-être qu'ils ont un coût des coûts qui ont augmenté côté serveur ou stockage. Ils ont juste envie de se faire plus d'argent aussi.
Ça aussi, je pense que c'est ça. L'autre problème, c'est que les downloads sur le PlayStation Plus sont toujours problématiques. C'est problématique parce que c'est lent, quoi.
C'est super lent.
Même si t'as une super connexion, c'est quand même, ça
même
reste.
Même si t'es fibré, hein, des fois, tu comprends pas, t'as un débit affreux.
Tu mets 3 heures à downloader 10 gigas, ce qui sur ton PC, sur Steam, sur n'importe quoi, se fait en 10 minutes, quoi. Donc,
C'est ça.
Bon, voilà, donc c'est pas hyper
après,
cool.
Après, je crois avoir vu passer ça, apparemment il va y avoir des jeux PlayStation Now qui seraient inclus dans l'abonnement de PS Plus bientôt.
Alors c'est ça la grande... Alors,
je sais pas si ça va concerner la France, mais...
Bah, c'est la grande interrogation. Y a beaucoup de gens qui se demandent si Sony ne réserve pas une annonce de ce type-là avec le lancement du PlayStation Now en Europe. On le rappelle, hein, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un service qui est disponible qu'aux États-Unis pour le moment, mais c'est le service de streaming de jeux. C'est-à-dire que tu as une bibliothèque, tu t'abonnes au PlayStation Now pour un prix, un tarif qui est un petit peu plus important que celui du PlayStation Plus, et ça vient en plus de ça, et tu peux avoir accès à n'importe quel jeu de la librairie qui inclut en plus aujourd'hui des jeux PlayStation 4. Ouais. Jusqu'à il y a pas longtemps, c'était que des jeux PlayStation 3, mais là maintenant c'est aussi des jeux PlayStation 4, pas tous hein, mais un certain nombre, et tu peux jouer à n'importe quel jeu en streaming. Alors pour les jeux multi compétitifs, ça va pas être idéal, mais pour les jeux solo, c'est parfaitement adéquat si tu as une connexion adaptée. Et donc voilà, tu as accès à une librairie qui est immense de plusieurs centaines de jeux, c'est un petit peu la version Netflix dont on parle pour que plein de gens essayent de proposer. Et donc la rumeur qui court, c'est que on aurait su avec, enfin bientôt, intégrer au PlayStation Plus l'accès à deux jeux par mois du PlayStation Now. Alors comment est-ce que ça marcherait ? On ne sait pas exactement. Il y aurait aussi accès à deux films en plus de ça, donc ça c'est sympa. Mais comment ça marche, on n'est pas sûr. Mais si ça marche de la manière que tu peux avoir accès à n'importe lesquels, enfin deux de n'importe lesquels des jeux qui sont disponibles par exemple, ça serait pas mal du tout. Tu peux alors c'est un accès limité, t'as pas accès à tout, c'est si c'est intégré à ton à tes 60 euros par an, bah il y a tel mois tu veux jouer à deux des jeux qui sont disponibles dans le truc. S'ils te proposent les deux jeux spécifiques, c'est un petit peu moins intéressant quand même, parce que c'est comme le PlayStation Plus où ils te donnent des jeux de toute façon tous les mois. Mais si t'as tes jeux PlayStation Plus, qui en plus depuis que la PlayStation 4 domine la génération, les jeux PlayStation Plus, c'est franchement pas les meilleurs jeux de la console. C'était super bien quand le PlayStation Plus est arrivé, maintenant c'est un petit peu moins le cas. Mais si en plus de ça t'as accès à deux jeux, n'importe lesquels, de la collection PlayStation Now, franchement, moi je pense que ça justifie l'augmentation du prix. Mais bon, c'est encore qu'une rumeur, quoi.
Faut attendre d'avoir les détails. Peut-être là, on est. Ah mais si, il y a l'appareil Games Week en octobre.
Sony a traditionnellement.
Il y a la Gamescom aussi. Peut-être qu'ils seront à la Gamescom. Enfin, est-ce qu'ils vont faire une annonce pendant un salon ? Ça, c'est pas sûr, mais en même temps, je dis ça.
La Gamescom, je pense pas. Je crois pas qu'ils aient de conférences là-bas.
Ils ont arrêté d'en faire des conférences à la Gamescom.
C'est ça. Mais il y a la Paris Games Week où ils ont une conférence générale. Enfin, ils ont eu ces deux dernières années.
C'est ça.
Et puis il y a le PlayStation Experience en décembre, show exclusivement Sony. Peut-être une annonce à ce moment.
Qui est presque aujourd'hui le plus gros événement chez Sony. Alors avec le 3, mais souvent il y a des très très grosses annonces au PS Experience, surtout côté jeu, quoi.
Ouais. Donc, et ça, franchement,
curieux de voir ça.
Si c'est organisé de cette manière, c'est-à-dire accès à deux jeux, n'importe lesquels parmi tous les jeux PlayStation Now, mais uniquement deux jeux, ça serait une très grosse annonce. Moi, je pense vraiment que ça rendrait le service hyper 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 intéressant. Je sais pas si je l'ai précisé, mais il est censé être lancé le PlayStation Now en Europe cette année.
Ouais, c'est vrai. Et il est disponible sur PC aussi. On a tendance à l'oublier, mais il y a même pas besoin d'avoir la console en fait pour pouvoir jouer à accéder au PlayStation Now. Donc ça peut être pas mal, quoi.
Et du coup, imagine si avec le PlayStation Plus, ça serait un PlayStation Now Lite et que tu peux même sur PC jouer à ces deux jeux.
Ouais, mais ça peut être un super deal. Hein.
Ça me fait penser à Amazon Prime.
Genre
si t'as droit à deux films plus les jeux plus deux jeux PlayStation Now plus les jeux PlayStation plus le jeu en ligne machin, c'est le genre de truc où tu te dis bon bah allez je vais payer mes 5 euros par mois.
Ça reste quand même une petite somme, hein, ça va quoi.
Ça va, et pour la plupart des gens, c'est pas non plus insurmontable. Et puis tu dis, voilà, je le paye, et puis j'ai accès à tous ces trucs de toute façon. Il y a quelques jeux, peut-être même des séries de leur service, enfin, je sais pas, ce genre de trucs. Et puis voilà, c'est un truc qui est quand même suffisamment large pour être intéressant pour plus même que pour les joueurs en général, pas forcément les joueurs qui ont une PlayStation. Il faut voir la librairie qui est disponible dans le PlayStation Now. Il faut voir si ça marche effectivement comme ça, ou c'est pas deux jeux parmi cinq qui sont disponibles ce mois-ci, mais pas les autres et machin. Bon.
Ouais, ouais, bon. Comme on dit, qu'est-ce qu'on dit, le truc un peu marronnier, pas wait and see, là, ou un truc comme
ouais,
ça.
Ouais, c'est hein. Ça, ouais, wait and see. On a les chiffres de vente sur le premier semestre 2017. Et alors, regarde pas les trucs, je sais pas si tu les as déjà vus.
Si, je les ai déjà regardés. Ah merde, d'accord. Je me suis spoilé. Bon. Mais alors... vas-y, je vais faire genre, je découvre.
Non, mais en fait, le truc que je voulais dire, c'est que moi, quand j'ai vu ces chiffres, c'était notre ami Oscar Lemaire qui les a publiés sur Twitter, je crois. Et ma réaction, c'était, ah ouais, non, mais je m'attendais pas du tout à ce que ça soit ces jeux-là qui soient les mieux vendus du semestre. Mmh. Et je voudrais proposer aux auditeurs, essayez de penser, à votre avis, quels sont les jeux qui ont été le plus vendus ce semestre-là. Je vous laisse quelques secondes. Quels sont les jeux
là, on est
dont vous pensez que...
Toutes plateformes confondues, tout... Voilà. Et
avec
en
des matérialisés...
Des maths inclus, oui, d'accord.
Ouais, des maths inclus pour la plupart d'entre eux, en tout cas. Il y a peut-être quelques-uns qui sont encore mystérieux, mais voilà. Quels jeux vous pensez qui sont les mieux vendus? Eh ben, je vais vous donner les résultats. Premier, Ghost Recon Wildlands. Deuxième, Zelda Breath of the Wild, ok. Troisième, For Honor. Quatrième, GTA V, indétrônable. Cinquième, Horizon Zero Dawn. Ensuite, il y en a d'autres. Injustice 2, sixième. Mass Effect
est pas si mal placé. Enfin, peut-être, je sais pas si on va décortiquer chaque jeu, mais je pense déjà qu'Ubisoft doit se frotter les mains là.
Bah, c'est clair. Et c'est là que je voulais en fait en venir. Mm. Franchement. Si on t'avait demandé de but en blanc là en fin juin, quel est le jeu le plus vendu du semestre, est-ce que t'aurais répondu Ghost Recon toi?
Non. J'aurais même pas.
Est-ce que t'aurais mis For Honor en troisième?
Ah bah encore moins. Franchement.
Merci. J'ai dit ça sur Twitter et les gens me sont tombés dessus genre bah non c'est des bons jeux, pourquoi je vois pas pourquoi tu dis ça machin. Oui bien sûr que c'est des bons jeux. Je dis pas le contraire. C'est pas. Oui. C'est juste que j'aurais pas pensé que Ghost Recon Wildlands était le plus vendu du semestre, quoi.
Moi, j'aurais parié sur encore un GTA, sans doute un FIFA. Alors FIFA, c'est plus la fin de l'année, certes, mais voilà. Et mine de rien, notons quand même Breath of the Wild, qui est le seul jeu exclusif à une console. Alors aussi,
il y a Horizon.
Il y a Horizon.
Ouais. C'est des multiplateformes. Ils sont tous multiplateformes les autres.
Ouais. Et c'est marrant parce que Horizon et Zelda, c'est des jeux qui ont quand même pas mal en commun et ça montre aussi qu'un open world, quand il est bien fait, bah, ça se vend, quoi, tout simplement.
Oui, bah, c'est sûr. C'est marrant que Zelda ait passé au-dessus de Horizon, parce que le premier trimestre, enfin, quand il venait de sortir, Horizon était bien au-dessus. Alors évidemment, ça s'est vendu avec la console, etc., donc c'est normal, mais il n'empêche, Zelda a quand même passé au-dessus, quoi.
Ça fait vachement plaisir qu'une nouvelle licence, hein, parce que Horizon c'est le seul du classement, je crois qu'il y a une nouvelle licence, je dis pas de bêtises.
Il y a For Honor.
For Honor, voilà. Bah, ça fait quand même plaisir d'avoir For Honor et Horizon qui sont des nouvelles licences. Quoi qu'on pense des jeux, mais For Honor est loin d'être un mauvais jeu. Marche bien, quoi, parce que ça va encourager sans doute les gros studios à continuer. C'est peut-être le moment de faire un peu de publicité pour Gamekult. justement, tu parlais d'Oscar Lemaire tout à l'heure. Il a publié un article en trois parties sur le marché du triple A aujourd'hui et il disait qu'en gros, on est un peu à un tournant parce qu'il y a énormément de jeux qui ont coûté extrêmement cher et qui n'ont pas atteint leurs objectifs hein, ces derniers mois, hein, les Deus Ex, les Dishonored, Prey, etc. Ça décortique un peu tout ça, c'est vachement intéressant. Et c'est vrai qu'on est quand même je sais pas si on est à un tournant, mais c'est vrai que pour un Ghost Recon, un Horizon et un Zelda qui se vendent bien, combien de jeux à X dizaines de millions, centaines de millions se plantent, quoi. Donc c'est un petit peu inquiétant quand même.
Ouais, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a toujours eu ce problème et c'est toujours c'est un petit peu comme au ciné, tu vois, c'est ou comme un investisseur de dans des startups. T'investis dans 10 et il y en a 9 qui se plantent et un qui te ramène 20, 30, 40 fois la mise, tu vois.
Bien sûr, mais il faut espérer. Alors, c'est sûr que pour Ubisoft, c'est bien parce que des cartons comme ça, ça leur permet aussi de financer des projets ou plus risqués peut-être ou
Non seulement ça, mais en plus ça les a amenés dans une position boursière où ils sont un petit peu en sécurité par rapport à Vivendi.
Par rapport à Vivendi, exactement.
Qui, pour le coup, Vivendi est plus dans la même situation qu'il y a 2 ans quand ils ont, un an et demi quand ils ont commencé à faire la chasse. Et Ubisoft est dans une situation beaucoup plus confortable et du coup, ils sont un petit peu à l'abri. Alors, on ne sait pas ce qui va se passer dans les mois à venir, mais il semblerait que Vivendi ne soit plus en mesure d'aller croquer Ubisoft. Depuis, ça a changé il y a 3-4 mois. Depuis 3-4 mois, quoi.
Mais ouais, et même je note que le Mass Effect est 7e, ce qui est plutôt étonnant parce que il s'est quand même pris une volée de bois vert à sa sortie. C'était clairement pas un épisode mémorable et malgré tout il s'est bien vendu. Donc
ouais. Bah je crois que là, au-delà des grosses ventes, il y a pas non plus énormément. Enfin, on les a toutes les grosses ventes là. Donc après, je sais pas s'il y a pas, tu vois, une chute dans les chiffres entre Horizon et Injustice. Je pense que c'est pas les mêmes types de succès,
sûr.
Quoi.
Sûr, c'est sûr. Et puis c'est un jeu qui a coûté très cher à mon avis. Enfin, je suis pas sûr qu'ils vont rentrer dans leur frais sur Mass Effect.
C'est ça, ouais. Bon, bah news suivante. Il semblerait que Facebook soit en passe d'annoncer à la Gamescom. C'est quand la Gamescom? C'est le 20.
C'est le 20, entre le 20 et le 26, un truc comme ça.
Ouais. Et vous y serez, tiens, avec ZQSD comme l'année dernière?
Écoute, non, cette année on n'y est pas parce que par rapport au bouclage de mes copains de ZQSD,
c'est trop tard dans la.
Il y a peut-être une personne, il y a peut-être Yann Yannou qui va y aller chez nous, mais non, on n'y va pas et moi non plus, donc voilà, peut-être l'année prochaine. Ouais,
écoute, on pourra suivre les conférences du confort de nos canapés alors.
De nos canapés. Toi non plus, tu y vas pas, toi?
Non, moi j'y vais pas.
D'accord.
Mais donc, il semblerait que Facebook soit en passe d'annoncer un nouveau casque de réalité virtuelle, possiblement à la Gamescom, qui sera un casque complètement autonome, qui coûtera seulement $200, et qui sera un casque Oculus, hein, bien sûr, qui sortira en 2018, et comme je disais, il sera autonome, donc il n'aura pas de fil pour s'attacher à un PC ou quoi que ce soit, il aura une autonomie, on sait pas de combien, mais en tout cas, une autonomie de mouvement qui sera totale, un petit peu comme le HoloLens de Microsoft. Et voilà, donc un nouveau casque Oculus, il y a eu en plus des promos assez importantes sur le Oculus Rift ces dernières semaines, avec une vente, avec les
Touch.
Les touch, ouais, au prix de l'Oculus normal, donc $600, 600 euros.
Même pas, hein, t'as eu des promos sur Amazon.
Ah oui, c'était pas à 400
et on pouvait choper les deux pour 450 euros. Du coup, c'était le casque le moins cher du marché. Ça revenait même moins cher que le PSVR.
C'est vrai.
Donc,
ça sent l'arrivée d'un nouveau modèle.
Ouais, je pense qu'il essaie de brader. Après, c'est intéressant parce que je trouve que l'Oculus, avec le recul, pour avoir quand même testé pas mal les trois casques, c'est c'est mon préféré, celui que je préfère en fait. C'est le plus confortable, c'est le plus facile à installer. Les touch sont, pour moi, c'est des contrôleurs exceptionnels. Enfin, le plus que ça apporte en matière d'immersion est incomparable, même avec ce que propose HTC ou PlayStation ou Sony. C'est quand même difficile de dire aujourd'hui acheter, foncer quand même à ce prix-là, parce qu'effectivement le problème c'est que dans un an ou moins il y aura les nouvelles générations. Et
s'il y a un Rift 2, c'est une chose. Clairement, ça sera une amélioration. Là, dans le cas d'un casque complètement autonome à $200, 200 euros, est-ce que on peut essayer de spéculer un tout petit peu, se dire qu'est-ce qu'ils peuvent mettre dans le truc pour 200 euros, quoi? Alors même s'ils le vendent à perte et que en fait il coûte 250 ou même 300. Qu'est-ce qu'on peut espérer, quoi?
Il y avait des protos qui tournaient sur le net d'un casque qui ressemblait beaucoup au Rift, avec derrière un module en fait qui le rendait autonome.
Oui, mais ça c'était un Rift sur lequel ils avaient ajouté un truc, tu vois.
Est-ce qu'ils vont s'espérer de ça? Et parce que n'oublions pas qu'ils ont quand même beaucoup travaillé avec Samsung sur le Gear VR aussi, c'est eux qui s'occupaient de la partie logicielle. Donc j'imagine que leur expérience avec Samsung va leur a servi.
Mais mon problème c'est au niveau matériel. Le Samsung, tu dois mettre un Galaxy S6, 7, 8 dedans qui coûte 600 euros minimum. Alors oui, mais même à fabriquer, je veux dire juste en matériel, juste en composants. Le prix de ce genre de téléphone haut de gamme qui sont vendus à 600, 700 euros, voire plus, ces téléphones coûtent généralement 200, 300 euros en matériaux, tu vois, en matériel.
Ouais.
Donc.
Ouais, je suis curieux si c'est vraiment $200, c'est avec un écran inclus et des composants. Parce qu'il y a en parallèle, il y a HTC qui a récemment annoncé, alors pour le moment que ça réserve à la Chine, un Vive autonome aussi. Et on en sait un tout petit peu plus. On sait qu'il sera équipé d'un Snapdragon 835, donc c'est-à-dire les puces haut de gamme aujourd'hui sur les smartphones, hein, le Galaxy S8 par exemple. Donc c'est quand même des puces qui sont quand même assez balèzes, qui peuvent envoyer techniquement, qui peuvent envoyer d'assez belles choses, mais bien sûr on n'est pas au niveau d'un PC. Et puis surtout, est-ce qu'il y aura un système de reconnaissance de mouvement aussi pointu que sur un PC? J'ai du mal à y croire forcément, mais De toute façon, on sait très bien que l'avenir est là. L'avenir, c'est l'avenir est dans les casques autonomes, légers. Enfin, parce qu'aujourd'hui, brancher un casque sur un PC, hein, faut dire ce qu'il y a, c'est quand même très chiant, quoi.
Bah, essayons de réfléchir à ce prix-là. Moi, je pense que entre 200 et 300, si on pousse vers les 300, ils peuvent, genre 300 et le vendre un peu à perte, ils peuvent avoir un matériel qui soit correct. C'est-à-dire un écran de qualité vaguement acceptable, enfin ou même si c'est juste un casque, c'est pas un téléphone, ils auront deux petits écrans, un processeur comme tu le dis, le Snapdragon 835, bah il envoie quand même du pâté, donc il pourrait sortir des images correctes, mais est-ce qu'il peut atteindre les 90 images secondes? Pour espérer.
Bah, oui, enfin, ça marche bien sur le Gear VR avec des smartphones. Donc, mais évidemment, t'auras pas la qualité graphique que tu peux avoir sur une 1070, enfin un portable, un PC avec une carte Nvidia, quoi.
Bah, disons je pense qu'aujourd'hui, on peut espérer mieux que la qualité d'un PlayStation VR avec un appareil de ce type-là. Et toute la technologie mobile qui est, comme ça fonctionne avec le PlayStation VR, si en plus t'as deux petites caméras qui vont te positionner dans l'espace sans avoir besoin de totem, moi je crois que c'est possible. Ça sera évidemment pas la qualité des casques les plus chers qui existent aujourd'hui connectés à un PC, et je pense que ça sera pas la qualité des casques type Oculus ou Vive qui vont sortir en 2019, je pense, les nouvelles versions, mais ça sera acceptable. Et ça pourrait être pour 200-250 dollars, disons 250 euros. Là, tout à coup, c'est un truc autonome. Tu t'ouvres un marché qui peut être hyper important. Je crois qu'il y a une vraie possibilité que ça lance la réalité virtuelle, ça soit la phase 2 de la réalité virtuelle, quoi. Si c'est confirmé, si c'est annoncé, etc. Mais il y a une vraie possibilité.
Ouais, c'est sûr, il faut aller sur des solutions comme ça pour que les gens puissent et la motivation pour investir, parce que déjà ça coûte moins cher, c'est beaucoup plus pratique à utiliser, c'est moins encombrant à la maison. Moi aujourd'hui j'aimerais beaucoup avoir des casques à la maison, mais j'ai juste pas la place en fait, c'est trop compliqué, à chaque fois faut que je le sorte, que je branche tout, enfin c'est pas possible, quoi.
Ouais, bah,
donc alors j'ai la chance d'avoir un boulot où j'ai accès aux trois casques, donc je joue quand j'essaye de la VR, je le fais au travail, mais des gens comme moi il y en a très peu, donc il y a plein de gens qui aimeraient pouvoir, et c'est aussi là où peut-être que les lieux de type attraction, les lieux où tu vas payer pour essayer de la VR pendant une heure, pourront peut-être leur place aussi, quoi.
Moi, je crois qu'il y a énormément de gens, les joueurs et les gens qui voient ces histoires. En plus, on parle de Facebook là, hein, mais toutes ces histoires de espace virtuel entre amis où on peut se réunir et se balader, machin, tout ce genre de trucs. Et les jeux, bien sûr, c'est vraiment... je dis les jeux, je précise, même pour Facebook, parce qu'il ne faut pas oublier que les jeux sont le moteur de très très loin, le moteur de l'industrie des apps, et qu'on est complètement connexe dans ce genre de trucs. Donc, les jeux ne seront pas oubliés, même si c'est un casse Facebook. Mais il y a énormément de gens qui nous écoutent, et de joueurs, qui vont se dire, bon, écoute, ces histoires de Vive et de Rift et de machin, il faut brancher, c'est compliqué, il faut avoir un gros PC, une PlayStation. Moi, avec mon PlayStation VR, je ne l'ai pas réutilisé depuis 4 mois, parce que c'est super chiant à sortir, à brancher, machin, complètement. Mais... du coup, tous ces gens-là, enfin, ça résout tous ces problèmes, vraiment, cette histoire de casque à 250 euros, même si c'est pas une machine que vous allez utiliser tous les jours pendant 3 ans. Je pense qu'il y a énormément de gens qui feront l'investissement, ne serait-ce que pour pouvoir essayer, voir ce que ça donne, et puis l'utiliser beaucoup plus facilement, régulièrement. Et il y a des trucs, je sais pas si t'as vu ce jeu, bah si, on l'évoquait tout à l'heure, le jeu Marvel là, Marvel Powers Unlimited VR, dont le trailer est un petit peu ridicule quand même, mais où c'est genre, tu joues un super-héros, tu joues un Avenger en équipe, et ça a l'air d'être une sorte de wave shooter machin, mais ce genre de truc, il y a quand même un fantasme qui se réalise, non?
Ouais, complètement, mais non, mais bien sûr. Et quand c'est bien fait, pour ça marche, la VR c'est c'est unique en vrai, hein. C'est vrai que c'est impressionnant. Enfin, moi j'ai joué par exemple récemment à un jeu qui s'appelle Loneco, qui est un jeu fait par Red Dead Dawn, le studio qui a fait notamment 1886 sur PlayStation 4, qui est un jeu où t'es un droïde qui est réparateur de vaisseaux dans l'espace, et il y a tout un truc sur la gravité à 0%, tu t'interagis avec un personnage, une humaine qui est extrêmement bien modélisée, et là tu joues entièrement avec ton corps et avec les contrôleurs touch pour vraiment t'agripper à des parois, etc. Les sensations que t'éprouves dans ces moments-là, tu peux pas les avoir autrement, en fait. C'est vraiment génial. Et dans ces moments-là, tu comprends en fait l'intérêt de la VR pour le jeu vidéo par rapport à un setup classique, quoi. Mais juste, c'est vrai que c'est ce que tu disais juste avant, c'est très juste, et c'est pas pour rien que le meilleur casque, enfin le casque qui s'est le plus vendu jusqu'à présent, c'est le Gear VR. C'est pas le Oculus Rift, c'est pas le HTC Vive, c'est le Gear VR qui est vendu 100 balles. Alors évidemment, faut avoir un casque, un téléphone à 700 €, mais souvent, même à une époque, il était offert quand t'achetais un S8 ou un S7, t'avais le Gear VR offert, et aujourd'hui, ça propose une expérience très très sympathique déjà pour un moindre prix, quoi.
Moi, j'ajouterais juste un truc avant qu'on avance. Il y a un élément qui est hyper important, et que tu évoques plusieurs fois, c'est les contrôleurs touch. Ouais. Et les contrôleurs en général, c'était le cas avec les Move sur le PlayStation VR. Vraiment, l'expérience est complètement différente quand tu as ce type de contrôleur. Et donc, j'imagine qu'il faudra vraiment que ce casque soit compatible avec les touches, ce casque Facebook, quitte à ce qu'il soit vendu séparément. Si tu peux en acheter deux pour 100 € ou un petit peu plus, voilà, ça suffira. Le casque lui-même sera autour de 200-250. Et tu peux ajouter, alors oui, ça fait augmenter le prix, mais il faut que ça soit possible, parce que sans les contrôleurs touch, l'expérience est complètement différente et bien, bien moindre. Donc,
c'est clair, c'est évident.
Overwatch, tiens, parlons-en un petit peu, puisqu'ils ont annoncé les débuts de leur Overwatch League, qui est assez intéressante. Il y a 7 équipes pour le début de la ligue, 5 qui sont aux États-Unis. Une de Corée du Sud et une en Chine, si je ne m'abuse. On n'a pas encore d'équipe européenne, mais les 5 équipes sont des équipes qui sont basées dans des villes. Alors, on a les villes classiques, hein, je crois qu'il y a Los Angeles, New York, etc., etc. Et le truc le plus intéressant, enfin, il y a 2 trucs vraiment intéressants. Elles sont financées par des grands, grands patrons d'équipes de sport aux États-Unis. Alors, je vais pas vous donner les noms parce que ça vous dirait pas grand-chose, mais c'est vraiment des équipes de sport qui sont des propriétaires de grosses équipes de sport, de basket, de baseball, de football américain, etc. Et donc, ça a un impact qui est assez important. Ils ont fait un gros communiqué de presse. Et l'autre truc, c'est qu'ils ont des contrats avec les promoteurs, les propriétaires de ces équipes et les joueurs qui mettent en avant le fait qu'il y a des salaires minimums, des participations aux gains, des couvertures santé obligatoire, etc. Donc la ligue, comme dans d'autres ligues sportives, on a un petit peu moins cette culture en Europe, mais dans ces ligues-là, il y a tout un tas. C'est la ligue qui gère énormément de la vie des sportifs, et donc là, ils seront couverts médicalement, ils auront par contrat une participation aux gains. Les joueurs auront, si je ne m'abuse, 50% des gains faits par l'équipe dans les tournois. Et pour la première année, il y a c'est plusieurs millions de dollars pour l'ensemble de la saison. Et en plus de ça, il y a des rumeurs, là on passe au niveau des rumeurs, selon lesquelles, un petit peu comme dans d'autres jeux, il sera possible peut-être d'acheter des armes, enfin d'acheter pour tous les joueurs, des armes aux couleurs de votre équipe préférée. Et une partie des bénéfices de ces ventes iront, là encore, aux équipes en question. Donc, c'est un petit peu comme le compendium marche pour Dota 2, pour l'international, mais de manière un petit peu plus systématique. Alors là, c'est vraiment une rumeur, c'est juste qu'on a vu qu'il serait peut-être possible d'avoir des skins sur des armes, et on a imaginé que ça serait utilisé dans ce contexte, mais on n'est pas vraiment sûr. Mais ceci dit, donc c'est une introduction à la première saison de la Ligue Overwatch qui, au-delà de du jeu lui-même Overwatch, semble montrer qu'il y a vraiment une ambition pour cette ligue qui est plus importante que un petit peu. On est dans le domaine des jeux les plus populaires de l'e-sport. Alors la grande question, ça sera est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut réussir, est-ce que Blizzard va pouvoir réussir à imposer ce jeu comme un e-sport majeur, ce qui n'est pas vraiment encore le cas, et à l'imposer au-delà de la place traditionnelle des e-sports. On a l'impression qu'ils visent encore plus haut, on ne sait pas, mais tout ce qui a été annoncé est quand même assez intéressant, je trouve.
Écoute,
si toi t'as suivi ça, mais...
Non, pas du tout. Là, je vais être très honnête. Hein, c'est vrai que l'e-sport.
Moi, je suis assez fan d'Overwatch. Donc,
je sais, ouais, je sais bien. Tu joues toujours autant Overwatch ou...
Ah ouais, non mais.
Pardon, c'est vrai.
Ah oui, complètement. Là, on parlait avant l'émission. J'étais en vacances et on disait ouais, les vacances pour des entrepreneurs. Est-ce que c'est vraiment des vacances ou est-ce qu'on est toujours en vacances ou jamais en vacances? On sait pas trop parce que j'ai fait un petit peu ce que je fais pendant que je suis pas en vacances. C'est marrant, Jérôme me disait sur Twitter quand tu travailles. Enfin, quand t'es indépendant et qu'en plus tu travailles dans un domaine qui est très proche de tes loisirs, quand tu veux vraiment des vacances, il faut partir, faut faire une cassure, faut aller quelque part parce que sinon tu sois. Ouais. Donc, mais oui, tout ça pour dire, je joue encore énormément à Overwatch. Pendant les vacances, j'ai passé des dizaines d'heures dessus encore maintenant. Quoi.
D'accord. Non mais c'est un... enfin bon, bref, on en a déjà beaucoup parlé d'Overwatch.
Oui, mais je veux dire pour cette histoire de ligue, il y a effectivement une ambition qui est certaine. Moi, j'ai hâte d'avoir en fait des équipes locales à nous, quoi. L'équipe de Paris. On a vu d'ailleurs la World Cup, qui est un format un petit peu différent, où on a des gens qui sont sélectionnés/invités. Je vais pas rentrer dans les détails du processus de sélection, mais on a la France qui a joué à Shanghai là pour la Overwatch World Cup et qui se sont donc qualifiés pour la BlizzCon encore une fois. Alors c'était pas trop compliqué parce que c'est une équipe professionnelle qui est extrêmement bonne en fait, qui est composée de Français, qui a été sélectionnée par nos amis AlphaCast et Trauma et Deguin. Étaient les sélectionneurs, et donc ils ont juste sélectionné l'équipe pro qui est composée uniquement de Français, donc c'était un processus très facile, et ils sont bien démerdés, même si c'était un petit peu plus difficile qu'on aurait espéré, et donc ils seront à la BlizzCon, mais tout ça pour dire que le fait d'avoir la France, tu vois, cet aspect local pour lequel tu pouvais cheer, comment on dit, tu pouvais les encourager, vive la France, machin, moi j'ai hyper hâte d'avoir une équipe locale, enfin l'équipe de Paris, l'équipe de trucs, et c'est tellement beaucoup plus personnel que, comme on le dit depuis des mois, hein, que ces équipes genre NVUS, NRG, machin,
ça incarne quelque chose auquel tu te sens plus proche, quoi, tu te sens plus proche, c'est sûr, s'il y a ta ville qui est représentée, c'est toujours sympa, quoi.
Donc on risque d'avoir genre Paris contre Marseille.
Le classico là, ouais, c'est ça, ça va être sympa.
J'espère que ça sera une
qu'on n'aura pas les Overwatch, quoi.
Ouais. J'espère juste qu'on n'aura pas les hooligans et les trolls.
Non, je pense que ça va là-dessus. Dans l'e-sport, il y a pour le moment, enfin ça va encore.
Ouais.
Pas
pour
trop
le moment.
Il n'y a pas trop, d'incendies, de stades incendiés et de chaises cassées, quoi.
Et de voitures brûlées, ouais.
Non, ça va.
Et pour conclure, une petite news sur un jeu mobile qui va sans doute être lancé en France assez vite et qui est un jeu mobile qui est un énorme succès que j'ai déjà évoqué, je crois, dans cette émission.
Qui a un nom absolument original.
Ouais.
J'adore ce genre de nom, c'est tous ces free to play dont tu vois les pubs un peu comme ça dans les app store, Honor of King, King of Hearthstone, tu vois, ce genre de trucs.
C'est machin of truc, et c'est généralement un nom genre War et Honor, et voilà, ouais. Et en plus, ils ont tous la même icône avec la tête d'un mec ou généralement d'un mec qui crie comme ça, qui a la bouche ouverte, c'est genre,
c'est exactement ça.
Sauf que là, c'est un petit peu le. Alors c'est Tencent qui a développé le jeu, enfin en tout cas qui édite le jeu. Et Tencent, c'est aussi les propriétaires de Riot, donc de League of Legends. Et c'est en gros le MOBA à succès sur mobile en Chine. Et ils ont réussi à comme on le disait, il y en a plein qui ont essayé de trouver la bonne formule. Et eux, ils ont réussi. Et donc ils vont lancer le MOBA en Europe bientôt, Et on, il y a fort à parier, enfin, on peut imaginer que ça sera le MOBA du mobile, le MOBA succès du mobile, qui sera, en Europe. Alors évidemment, le mobile a pas exactement la même configuration en Europe parce que dans en Asie et en Chine en particulier, bah, c'est la plateforme de jeu principale, même pour les entre guillemets core gamers. C'est peut-être pas exactement la même chose en Europe, mais il n'empêche, il y a beaucoup de gens qui jouent sur mobile, qui jouent très sérieusement sur mobile, et je pense que Honor of Kings sera un jeu qui va compter dans les mois à venir, quoi.
Excuse-moi, mais je regardais en même temps les titres de MOBA sur mobile. Ah, t'as quand même un jeu qui s'appelle Heroes of Soulcraft, tu vois. Ça, c'est pareil, c'est très original. League of Masters. Et oui, alors, parce que c'est pour trouver le nom. Il y en a un qui avait très bien marché apparemment il y a 2 ans, qui s'appelait Vainglory.
Ah oui, oui,
très joué. Alors, je sais pas s'il est toujours aussi joué, mais ça a été quasiment peut-être le plus gros succès du MOBA jusqu'à présent sur mobile, quoi.
Je crois que oui, c'est clairement c'était un petit peu le jeu principal dans cette catégorie. Le truc c'est que cette catégorie était relativement modeste par rapport à ce qu'elle pourrait être, tu vois.
Oui, bien sûr.
Là, je crois que on arrive les gros de la catégorie sont enfin ils veulent Honor of Kings a la possibilité d'être le gros gorille de la catégorie et d'arriver de mettre tout le monde d'accord.
Et puis ils ont Tencent derrière qui est quand même un mastodonte.
Voilà, exactement.
Ouais, c'est clair.
Donc voilà.
En tout cas, j'ai hâte de jouer à Heroes of Soulcraft et à Call of Champions, qui est un autre MOBA d'un titre qu'on n'a jamais eu.
Qui est différent de League of Masters, bien sûr.
Voilà, c'est pas la même chose.
Ah là là, le jeu mobile est vraiment intéressant. Bon, donc ça va être tout pour notre épisode. On va quand même évoquer très rapidement le fait qu'il y a Uncharted The Lost Legacy qui va arriver dans quelques semaines. Selon toutes les previews qu'on a eues, bah, c'est un bon jeu Uncharted classique. Donc c'est un gros jeu Uncharted.
Ouais, c'est cool.
Voilà, ça ne surprendra personne. Mais moi, je l'attends avec impatience. Et Square Enix a confirmé que Dragon Quest 11 arrivait en Occident en 2018.
Ouais.
Alors ça surprend personne, mais...
Moi, j'ai regardé mon collègue, mon confrère Puyo de GameCube qui jouait en japonais là, en direct à la rédac, j'étais à côté de lui.
Ouais, il est sorti il y a quelques jours à peine.
Ouais, hein, il est sorti au Japon là et j'ai vu le jeu tourner. Alors bon, moi j'adore Dragon Quest. Par contre, il y a quand même un sacré downgrade graphique par rapport à ce qu'on avait vu sur les vidéos. Bon, c'est pas forcément très étonnant. Ouais, enfin en tout cas, alors évidemment, moi j'ai vu le début du jeu, tu vois, j'ai pas encore vu les grandes zones ouvertes, mais techniquement, j'ai pas trouvé ça je trouvais ça un petit peu décevant. Après ça reste
parce que il était hyper beau dans les trailers.
Mais mais c'est ça, dans les trailers, le truc était coloré, il y avait des beaux effets de lumière, de cascade et tout. Là, de tout j'en ai vu. Alors, après c'est le début d'un RPG japonais, donc c'est assez couloir, c'est pas très ouvert, c'était assez drivé, ce qui est normal. Faudrait vraiment que je regarde sa partie là, que j'aille jeter un œil à sa partie, parce qu'il
en est maintenant, ouais.
Il est en train de le tester forcément, voir si ça s'est amélioré, quoi.
D'accord. Bon, écoute.
Mais j'attends énormément. Moi, j'adore Dragon Quest. Donc.
Oui, bah, je crois que c'est là encore un petit peu comme personnage. Je pense que Dragon Quest a été une série qui a eu un succès. Enfin, c'est difficile d'expliquer à quel point c'est un succès culturel au Japon. C'est le jeu pour lequel le gouvernement a demandé à Square Enix de changer la date de sortie de la semaine au week-end dans les années 2000, 90-2000, parce que les enfants séchaient l'école pour aller l'acheter, quoi. Non, c'est invraisemblable le succès qu'ils ont eu. Et donc le jeu a eu ce succès et par vague est arrivé un petit peu en Occident aussi, mais je crois que Dragon Quest XI sera comme pour Persona 5 l'occasion de vraiment faire découvrir le jeu en Occident. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler quand il sortira.
Carrément.
Et donc voilà pour cet épisode du Rendez-vous Jeu. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et évidemment, avant de se quitter, on va demander à notre ami Mika de nous dire où on peut le retrouver sur Internet.
Sur Internet, on peut en retrouver sur lesnumériques.com, au quotidien, hein, voilà, et sur le podcast ZQSD, podcast de jeux vidéo PC. Là, on est un petit peu la pause estivale. On a malheureusement un numéro de retard qu'on n'a pas encore publié, qu'on a enregistré il y a beaucoup trop longtemps avec l'équipe de Lizard Cube qui a fait le remake de Wonder Boy. Excellent remake que je vous conseille. Voilà, et puis on va probablement faire un petit hors-série en direct de la Bretagne de chez Walou à la fin du mois, histoire de se marrer un petit peu, puis voilà, retour classique à la rentrée en septembre.
Très bien.
Et voilà, et JKLAURET sur Twitter.
Et le lien est dans les notes de l'émission, évidemment. Et pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter et sur Facebook, bien sûr. Vous pouvez également retrouver cette émission et beaucoup d'autres sur frenchspin.fr. Et vous pouvez également, si vous souhaitez nous soutenir un petit peu, aller sur iTunes ou sur n'importe quel autre catalogue de podcast et nous laisser une review, nous laisser quelques petits commentaires. Ça serait extrêmement sympathique et apprécié si vous preniez 2 minutes pour faire ça. Et quoi d'autre? Bah écoutez, on sera de retour dans 15 jours puisque maintenant ça y est, les vacances sont vraiment terminées, donc on est de retour au rythme normal, au rythme classique, et on sera de retour dans 15 jours avec un nouvel épisode. On espère que vous vous porterez très bien et que vos vacances continuent ou votre été continue à être merveilleux. Et d'ici là, bah on vous fait plein de grosses bises. À très bientôt. Ciao à tous.
Salut.